Chapitre 8. Jones arrive à Gloucester et s'arrête à la cloche. Description de cette auberge et portrait d'un avocat ignorant qu'il y rencontre. Monsieur Jones et Partridge, ou le petit Benjamin, surnom qui lui avait été probablement donné par dérision, car il avait en effet près de 6 pieds de haut, après avoir quitté leur dernier domicile, ainsi que nous l'avons raconté, prirent la route de Gloucester, où ils arrivèrent sans avoir rencontré aucune aventure digne de remarque. Ils s'arrêtèrent à l'enseigne de la cloche, excellente auberge sans contredit, et que je recommande très sérieusement à tous ceux de mes lecteurs qui visiteront cette antique cité. Celui qui la tient aujourd'hui est frère du célèbre prédicateur Whitefield, mais absolument pur des principes pernicieux du méthodisme ou de toute autre secte d'hérétiques. C'est réellement un homme simple, parfaitement honnête et peu fait pour exciter le moindre trouble dans l'Église ou dans l'État. Sa femme paraît avoir eu de grandes prétentions à la beauté et est encore une très belle femme. Les grâces dont elle est surtout pourvue auraient pu figurer d'une manière brillante dans les cercles les plus distingués. Mais quoiqu'elle doive avoir le sentiment de ses avantages et d'une foule d'autres perfections, elle paraît très contente et résignée à l'état qu'elle a embrassé. Et cette résignation est entièrement due à sa sagesse et à sa prudence, car elle est maintenant aussi pure de méthodisme que son mari. Je dis à présent, car elle avoue franchement, que les documents de son frère avaient d'abord fait quelque impression sur elle, et qu'elle avait fait la dépense d'un grand capuchon pour attendre l'inspiration extraordinaire de l'Esprit-Saint. Mais après une expérience de 3 semaines, n'ayant senti aucune inspiration qui valût, dit-elle, la peine d'en parler, elle avait très sagement mis le capuchon de côté et abandonné la secte. Bref, c'est une excellente femme, si sensible et si ingénieuse à trouver les occasions d'obliger, qu'il faut être de bien mauvaise humeur pour ne pas se trouver parfaitement bien chez elle. Mrs. Whitefield se trouvait dans sa cour quand Jones et son compagnon y entrèrent. Sa sagacité ne tarda pas à lui faire découvrir, dans l'air de notre héros, quelque chose qui le distinguait du vulgaire. Elle ordonna donc à ses domestiques de le conduire sur le champ dans un appartement et l'invita aussitôt à dîner avec elle. Invitation qu'il accepta avec beaucoup de reconnaissance. Car, il le faut avouer, une compagnie beaucoup moins agréable que celle de Mrs. Whitefield et un dîner beaucoup moins bon que celui qu'elle avait fait préparer auraient été fort bien reçus par Jones après un jeûne aussi long et une aussi longue course. Outre M. Jones et la maîtresse de maison, il y avait à table un procureur de Salisbury, le même qui avait porté à M. Allworthy la nouvelle de la mort de Mrs. Blifil, et dont le nom, que nous n'avions pas encore dit, je crois, était Dowling. Plus un autre personnage qui se disait homme de loi et demeurait quelque part près de Linlinch, dans le comté de Somerset. Cet homme, je le répète, se disait homme de loi, et n'était qu'un avocat de la classe la plus vile, sans esprit et sans aucune espèce de connaissance. Un de ceux qu'on peut nommer les goujats du barreau, sorte de surnuméraire dans la profession, au service des procureurs, et qui court pour une demi-couronne plus de 1000 qu'un postillon. Pendant le dîner, l'avocat de Somersetshire se rappela le visage de Jones qu'il avait vu chez M. Allworthy, ayant fait de fréquentes visites à la cuisine de ce gentilhomme. Il en prit occasion de s'informer des nouvelles de cette respectable famille, avec cette intimité qui eût convenu à un ami intime ou au moins à une connaissance particulière de M. Allworthy. Il fit même tout ce qui était en son pouvoir pour insinuer qu'il avait cet honneur, quoique dans le fait, il n'eût jamais eu de relation plus élevée dans la maison que la connaissance du sommelier. Jones répondit très poliment à toutes ces questions, quoiqu'il ne se rappelât pas de l'avoir jamais vu, et quoiqu'il jugeât, d'après l'extérieur et la conduite de cet homme, qu'il usurpait insolemment un titre auquel il n'avait aucun droit. Comme la conversation des gens de cette espèce est la plus insoutenable de toutes pour quiconque a le moindre bon sens, la nappe ne fut pas plutôt ôtée que M. Jones se retira et laissa un peu cruellement la pauvre Mrs. Whitefield exposée à un inconvénient dont j'ai souvent entendu gémir M. Timothy Harris et d'autres aubergistes d'un discernement aussi fin, qui regardent comme la peine la plus rigoureuse attachée à leur état l'obligation de tenir compagnie à leurs hôtes. Jones n'eut pas plutôt quitté la salle que mon chicaneur demanda tout bas à Mrs. Whitefield si elle savait quel était ce joli damoiseau. Elle répondit qu'elle n'avait pas encore vu ce gentilhomme. « Ce gentilhomme, oui, répliqua le chicaneur, c'est un beau gentilhomme, ma foi. Je vous dis, moi, que c'est le bâtard d'un coquin qui a été pendu pour avoir volé un cheval. » On l'avait mis secrètement devant la porte de M. Allworthy, où l'un des domestiques le trouva dans une boîte si pleine d'eau, car il avait plu toute la nuit, qu'il aurait été infailliblement noyé s'il n'avait pas été réservé pour faire une autre fin. « Oui, oui, vous n'avez pas besoin de nous dire laquelle, je vous assure, » s'écria Dowling en faisant la plus plaisante grimace. « Nous entendons parfaitement quelle est cette fin dont vous voulez parler. » « Monsieur Allworthy, » continua l'autre, « ordonna qu'on le prît dans la maison, car chacun sait que c'est un homme faible, et il craignit de s'attirer quelque mauvaise affaire. » Le bâtard fut donc élevé chez lui, nourri et vêtu comme un gentilhomme. Il fit par la suite un enfant à l'une des servantes de la maison et lui persuada de jurer que M. Allworthy en était le père. Puis il cassa le bras à un M. Thwackum par la seule raison que ce respectable ecclésiastique lui reprochait de courir toujours les filles. Et puis il lâcha un coup de pistolet à M. Blifil par derrière. Et un jour que M. Allworthy était malade, il prit un tambour et ne cessa d'en faire retentir toute la maison pour l'empêcher de dormir. Il a fait 20 autres fredaines, pour lesquelles, 4 ou 5 jours environ avant que je quittasse le pays, M. Allworthy le fit dépouiller tout nu et le mit à la porte. « Et ce ne fut qu'une justice, je vous le proteste, » s'écria Dowling. « Je mettrai mon propre fils à la porte s'il en faisait seulement la moitié. Et je vous prie, quel est le nom de ce beau gentilhomme ?»« Son nom, » répondit le chicaneur, « il s'appelle Thomas Jones. » « Jones, » répondit Dowling un peu vivement. « Qui ? Monsieur Jones, qui demeurait chez Monsieur Allworthy ? Est-ce ce gentilhomme qui vient de dîner avec nous ?»« Le même, » dit l'autre. « J'ai souvent entendu parler de lui, » s'écria Dowling. « Mais jamais je n'ai ouï dire qu'il eût un mauvais caractère. »« Il est bien certain, en tout cas, » dit Mrs. Whitefield, « que si la moitié seulement de ce que Monsieur a dit est vrai, Monsieur Jones a la figure la plus trompeuse que j'ai jamais vue. » Et sûrement ses yeux promettent tout autre chose. Ce que je dois dire, d'après le peu que je l'ai vu et d'après sa conversation, c'est qu'il est aussi poli et aussi bien élevé qu'on puisse le désirer. Le chicaneur, se souvenant qu'il n'avait pas prêté serment, suivant la coutume, avant de faire sa déposition, appuya ce qu'il venait de dire d'un si grand nombre de jurements et d'imprécations que les oreilles de l'hôtesse en furent offensées, et que pour en arrêter le cours, elle lui protesta qu'elle le croyait. « J'espère, madame, lui dit-il alors, que vous êtes bien persuadée que je dédaignerais d'avancer contre qui que ce soit des faits aussi graves, si la vérité ne m'en était pas démontrée. Quel intérêt puis-je avoir à flétrir la réputation d'un homme qui ne m'a jamais fait de mal? Je vous atteste que chaque mot de ce que je vous ai dit est un fait. Tout le pays en est instruit comme moi. » Comme Mrs. Whitefield n'avait point de raison de soupçonner que cet homme eût aucun motif pour calomnier Jones, le lecteur ne peut la blâmer d'avoir cru ce qu'il affirmait en conscience avec tant de serments. Elle cessa dès lors de croire à son habileté dans la science de la physionomie et conçut dès ce moment une si mauvaise opinion de son hôte qu'elle désirait de tout son cœur qu'il fût déjà hors de sa maison. Cette aversion fut bientôt augmentée par un rapport que M. Whitefield vint faire en revenant de la cuisine, où Partridge avait informé les domestiques que, quoiqu'il portât le havresac et se contentât de rester avec eux, tandis que Tom Jones, comme il l'appelait, se régalait dans la salle, il n'était point son domestique, mais son ami, son compagnon, et aussi bon gentilhomme que M. Jones lui-même. Pendant tout ceci, Dowling avait gardé le silence, mordant ses doigts, grinçant les dents, faisant des grimaces affreuses et ayant quelque chose d'extrêmement sinistre dans le regard. Il ouvrit enfin la bouche et protesta que M. Jones avait l'air de quelque chose de mieux. Puis il demanda son mémoire comme un homme fort pressé et déclara qu'il fallait absolument qu'il fût le soir même à Hereford. Gémissant sur la grande multiplicité de ses affaires, et souhaitant, dit-il, qu'on pût le partager en 20 pour pouvoir être dans 20 endroits à la fois. Le chicaneur partit aussi. Jones vint alors prier Mrs. Whitefield de lui accorder la faveur de prendre le thé avec lui. Mais elle le refusa, et d'un ton si différent de celui avec lequel elle l'avait invité à dîner, qu'il en fut un peu surpris. Il s'aperçut bientôt que sa conduite avec lui était totalement changée. Car, au lieu de cette affabilité naturelle dont nous avons fait ci-devant l'éloge, son visage annonçait une contrainte pénible qui fut si désagréable à M. Jones qu'il résolut, quoiqu'il fût tard, de quitter la maison le soir même. Il faut convenir qu'il fut un peu injuste en voulant se rendre compte de ce changement subi. Car, sans parler des réflexions inciviles qu'il se permit sur l'inconstance et la légèreté des femmes, il commença à soupçonner qu'il devait ce manque de politesse à ce qu'il manquait de chevaux, sorte d'animaux qui, ne salissant pas de draps, sont considérés dans les auberges comme payant mieux leur lit que leur maître, et estimés en conséquence meilleure compagnie. Mais pour rendre justice à Mrs. Whitefield, elle avait une manière de penser plus noble, elle était parfaitement bien élevée, et savait recevoir un voyageur avec beaucoup de politesse, quoiqu'il fût à pied. Mais elle regardait notre héros comme un mauvais garnement et le traitait comme tel. Conduite pour laquelle Jones lui-même, s'il en eût su autant que le lecteur, n'aurait pu la blâmer. Il aurait dû au contraire approuver sa conduite et l'estimer davantage pour le mépris qu'elle lui montrait. Il faut convenir que ce mépris est une des circonstances les plus aggravantes de celles qui suivent ordinairement le crime d'avoir injustement flétri la réputation de quelqu'un. Car un homme qui sait que l'on parle mal de lui dans le monde ne peut, avec justice, en vouloir à ceux qui le négligent et le méprisent. Il devrait plutôt mépriser lui-même ceux qui rechercheraient sa société, à moins qu'une parfaite intimité ne les eût convaincus que la réputation de leur ami était faussement et injurieusement diffamée. Ce n'était pas le cas où se trouvait Jones. Parfaitement étranger à tout ce qui s'était passé, il avait de bonnes raisons pour se croire offensé du traitement qu'il recevait. Il paya donc son mémoire et partit contre le vœu prononcé de M. Partridge, qui, après s'être opposé vainement à ce projet, consentit enfin à se charger du havresac et à suivre son ami. Chapitre 9. Contenant plusieurs dialogues entre Jones et Partridge sur l'amour, le froid, la faim et d'autres sujets. Peu s'en fallut que Partridge ne se compromît au moment où il allait faire à son ami un aveu qui aurait pu lui être fatal. Les ombres commençaient à descendre en se prolongeant du sommet des plus hautes collines. La nation emplumée s'était retirée pour se livrer aux douceurs du sommeil. La classe la plus élevée des créatures humaines venait de se mettre à table pour dîner. La plus basse soupait. En un mot, 5 heures sonnaient au moment où M. Jones quitta Gloucester, heure à laquelle, comme on était alors au milieu de l'hiver, la nuit, de ses doigts d'ébène, aurait tiré son voile noir sur l'univers, si elle n'avait été empêchée par la lune, qui, la face aussi large et aussi rouge que celle de ces mortels charmants, qui, comme elle, font de la nuit le jour, commençait à sortir de son lit, où elle avait dormi tout le jour, afin de veiller toute la nuit. Il n'y avait pas encore longtemps que Jones était en chemin, lorsqu'il adressa ses compliments à cette belle planète, et, se tournant vers son compagnon, lui demanda s'il avait jamais vu une soirée plus délicieuse. Partridge, ne s'empressant pas de répondre à sa question, il continua à faire ses commentaires sur la beauté de la lune et répéta quelques passages de Milton, qui a certainement surpassé tous les autres poètes dans sa description des flambeaux célestes. Il raconta ensuite à Partridge l'histoire qu'il avait lue dans Le Spectateur de deux amants qui étaient convenus de s'entretenir ensemble quand ils seraient à une grande distance l'un de l'autre, en se retirant à une certaine heure pour regarder la lune, se complaisant ainsi dans la pensée qu'ils étaient occupés tous deux à contempler en même temps le même objet. Il faut, ajouta-t-il, que ces amants aient eu des âmes bien véritablement capables de sentir toute la tendresse la plus sublime de toutes les passions humaines. Très probablement, s'écria Partridge. Mais je les envierais bien davantage s'ils avaient aussi des corps insensibles aux rigueurs de la saison. Car je suis presque mort de froid, et je crains furieusement de laisser en route une bonne partie de mon nez avant que nous soyons arrivés à une autre auberge. Je vous le dis franchement, il nous arrivera quelque chose de sinistre pour nous punir de la folie que nous faisons de nous être presque enfuis la nuit d'une des plus excellentes auberges où j'ai jamais mis le pied. Je vous assure que je n'ai jamais vu plus de bonnes choses de ma vie. Et le plus grand seigneur d'Angleterre ne pourrait faire meilleure chère dans son château que dans cette maison-là. Abandonner un lieu pareil pour aller courir le pays, Dieu sait tout. Je ne dis rien quant à moi, mais il pourrait se trouver des gens qui seraient assez peu charitables pour conclure de notre conduite que nous ne jouissons pas de notre bon sens. Fi donc, monsieur Partridge, dit Jones, ayez plus de courage. Considérez que nous allons braver un ennemi en face, et vous craignez de braver en face un peu de froid. Je souhaiterais cependant que nous eussions un guide pour nous dire laquelle de ces deux routes nous devons prendre. Si j'osais, dit Partridge, vous soumettre mon opinion. Eh bien, s'écria Jones, lequel me conseilleriez-vous de prendre? Ma foi, ni l'un ni l'autre. Le seul chemin dont nous puissions être sûrs est celui par lequel nous sommes venus. Un bon pas nous ramènera en une heure à Gloucester. Mais si nous continuons d'aller de l'avant, Dieu sait quand nous arriverons quelque part. Car je vois au moins 50 000 devant moi, et pas une habitation sur toute la route. Il faut convenir, dit Jones, que vous avez là une vue bien étendue. L'éclat brillant de la lune y ajoute encore une grande beauté. Cependant, je vais prendre le chemin à gauche, qui me paraît conduire directement à ces collines qui, à ce qu'on nous dit, ne sont pas loin de Worcester. Quant à vous, si vous avez envie de me quitter, vous pouvez vous en retourner au moment même, car pour moi, je suis résolu d'aller en avant. Il est mal à vous, monsieur, dit Partridge, de me soupçonner d'une pareille intention. Ce que je vous ai conseillé était autant pour vous que pour moi. Mais puisque vous êtes déterminé à continuer votre route, je ne le suis pas moins à vous suivre. Nos voyageurs firent plusieurs milles sans se parler. Pendant ce silencieux intervalle, Jones soupirait souvent, et Benjamin gémissait avec non moins d'amertume, quoique pour des motifs bien différents. Enfin, Jones s'arrêta tout à coup, et se retournant du côté de la lune, s'écria « Qui sait, Partridge, si la plus aimable créature du monde n'a peut-être pas en ce moment les yeux fixés sur cette même lune que je regarde maintenant ?»« Très probablement, monsieur, répondit Partridge. Mais si mes yeux étaient fixés sur une bonne longe de bœuf rôti, le diable pourrait emporter, sans que je m'en aperçusse, votre lune et ses cornes par-dessus le marché. » Fit-on jamais une pareille réponse ? S'écria Jones. Dis-moi, je t'en prie, Partridge, as-tu jamais éprouvé l'amour dans le cours de ta vie, ou le temps en a-t-il entièrement effacé les traces de ta mémoire ? Ouais, s'écria Partridge, il aurait été bien heureux pour moi de n'avoir jamais connu l'amour. Je vous assure que j'ai goûté toutes les douceurs, toute la sublimité, toutes les amertumes de cette passion. Votre maîtresse fut donc cruelle, dit Jones. Très cruelle, véritablement, monsieur, car elle m'épousa et devint par la suite l'une des plus méchantes femmes du monde. Mais le ciel en soit loué, elle n'est plus. Et si je croyais qu'elle fût dans la lune, comme je l'ai lu autrefois dans un livre qui assure qu'elle est le réceptacle des esprits qui ont quitté ce monde, je ne regarderai jamais cet astre, de peur de l'y apercevoir. Je souhaiterais cependant, monsieur, que la lune fût un miroir pour vous, et qu'en ce moment Miss Sophie Weston fût placée devant elle. Mon cher Partridge, s'écria Jones, de qui est cette pensée? Pensée qui, j'en suis sûr, n'a jamais pu entrer dans aucun esprit que dans celui d'un amant. Oh, Partridge, si je pouvais espérer de revoir encore ce visage charmant! Mais, hélas, tous ces songes délicieux sont évanouis pour jamais, et ma seule ressource contre le malheur qui me menace est d'oublier l'objet qui fit tout mon bonheur passé. Et désespérez-vous réellement de revoir Miss Weston? Répondit Partridge. Si vous voulez suivre mon conseil, je vous réponds que non seulement vous la verrez, mais que vous la posséderez un jour. Ah! S'écria Jones, ne réveille pas dans mon cœur une idée de cette nature. J'ai déjà assez combattu pour étouffer de semblables désirs.
« Oh bien, répondit Partridge, si vous ne désirez pas tenir votre maîtresse entre vos bras, vous êtes un amoureux fort extraordinaire. »«
Bien, bien, dit Jones, quittons ce sujet, et je vous en prie, dites-moi laquelle de ces deux routes me conseillez-vous de prendre. »
« Pour vous parler le langage militaire, dit Partridge, puisque nous sommes soldats, demi-tour à droite. Retournons par où nous sommes venus. Nous pouvons encore regagner Gloucester ce soir, quoiqu'il soit tard. Au lieu que si nous allons toujours en avant, nous courrons risque, à ce que je puis voir, de nous égarer de plus en plus, sans rencontrer une maison et sans pouvoir même revenir chez nous.
Je vous ai déjà dit que ma résolution était d'aller en avant, répondit Jones.
Mais je voudrais que vous vous en retournassiez. Je vous suis obligé de m'avoir accompagné jusqu'ici et vous prie d'accepter une guinée comme une faible marque de ma reconnaissance. Je dis plus, il serait cruel à moi de souffrir que vous allassiez plus loin. Car, je vous le dis franchement, je n'ai d'autre but ni d'autre désir que de mourir glorieusement au service de mon roi et de ma patrie.
Quant à votre argent, répliqua Partridge, je vous prie de vouloir bien le remettre dans votre bourse. Je n'en veux point recevoir de vous, car je crois être à présent le plus riche de nous deux. Et puisque votre résolution est d'aller en avant, la mienne est de vous suivre. Ma présence me paraît même absolument nécessaire à votre sûreté, puisque vous avez un projet si désespéré, car je vous promets que j'en médite un beaucoup plus prudent. De même que vous êtes résolu de périr dans la bataille, si vous le pouvez, je suis résolu, moi, et non moins fermement, de ne pas recevoir la plus légère égratignure, si je puis l'éviter. Et, il faut l'avouer, j'ai la consolation de penser qu'il n'y aura que fort peu de danger. Car un prêtre papiste m'a dit l'autre jour que cela serait bientôt fini, et même sans combat, à ce qu'il croyait.
J'ai ouï dire, répliqua Jones, qu'il ne fallait pas toujours en croire un prêtre papiste quand il parle en faveur de sa religion.
Vous avez raison, dit Partridge, mais bien loin de parler en faveur de sa religion, il m'a assuré que les catholiques n'espéraient rien gagner au change, que le prince Charles était aussi bon protestant qu'il en fut en Angleterre, et que son seul intérêt l'avait rendu jacobite, lui et tous les autres papistes.
Je crois autant à son protestantisme que je crois peu à ses droits, dit Jones, et je ne doute pas de notre succès, mais non sans une bataille.
Vous voyez que je ne suis pas si confiant que votre ami le prêtre papiste.
Il est même certain, monsieur, répondit Partridge, que toutes les prophéties que j'ai lues parlent de beaucoup de sang qui doit être répandu dans la querelle, et que le meunier aux trois pouces, qui est encore vivant, doit tenir les chevaux de trois rois ayant du sang jusqu'aux genoux. Dieu ait pitié de nous et nous envoie des temps meilleurs.
De quelle ridicule sottise as-tu rempli ta tête, répondit Jones.
Cela vient aussi, je suppose, de ton prêtre papiste. Des monstres et des prodiges sont des arguments propres à soutenir une doctrine monstrueuse et absurde. La cause du roi George est la cause de la liberté et de la vraie religion. En d'autres mots, mon enfant, c'est la cause du sens commun, et je vous garantis son succès, quand Briarée lui-même se relèverait avec ses 100 pouces et se ferait meunier.
Partridge ne répliqua rien. Cette déclaration de Jones le jeta, à vrai dire, dans la plus grande confusion. Car, pour informer le lecteur d'un secret que nous n'avons pas encore trouvé une occasion convenable de lui révéler, Partridge était dans la vérité un jacobite. Il avait cru que Jones était du même parti, et était en ce moment en route pour aller joindre les rebelles. Opinion qui n'était pas sans fondement, car la dame à la grande taille, dont parle Hudibras, ce monstre de Virgile, qui a un si grand nombre d'yeux, de langues, de bouches et d'oreilles, ayant raconté l'histoire de la querelle qui avait eu lieu entre Jones et l'officier, avec son respect ordinaire pour la vérité, avait substitué le nom du prétendant à celui de Sophie, et avait rapporté que le motif pour lequel Jones avait reçu une blessure était d'avoir porté un toast à sa santé. Voilà ce que Partridge avait entendu dire, et ce qu'il croyait très fermement. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il eût conçu de Jones l'opinion dont nous venons de parler,
et qu'il se fût presque entièrement découvert à lui avant d'avoir reconnu sa méprise. Le lecteur sera encore moins porté à s'en étonner s'il veut bien se rappeler la phrase ambiguë dont Jones se servit la première fois qu'il fit part de sa résolution à M. Partridge, et il faut convenir que la phrase eût-elle été encore moins obscure, Partridge aurait très bien pu l'interpréter comme il le fit, persuadé comme il l'était que toute la nation avait dans le cœur le même désir que lui. Il n'était pas même ébranlé dans son opinion par le voyage que Jones avait entrepris avec un détachement de soldats, car il avait de l'armée la même opinion que du reste du peuple. Mais, quelque attaché que Partridge pût être à Jacques ou à Charles, il l'était encore beaucoup davantage au petit Benjamin. Il n'eut donc pas plutôt découvert quels étaient les principes de son compagnon de voyage qu'il crut convenable de cacher les siens et de paraître les sacrifier à l'homme sur lequel il comptait pour faire sa fortune. Car il ne croyait pas les affaires de Jones aussi désespérées qu'elles l'étaient réellement auprès de M. Allworthy. Depuis qu'il avait quitté le pays, il avait toujours conservé une correspondance avec quelques-uns de ses voisins qu'il avait beaucoup entretenus, et souvent même, avec exagération, de l'extrême attachement de M. Allworthy pour ce jeune homme, qui, suivant les avis que Partridge avait reçus, devait être héritier de ce gentilhomme, dont il ne doutait pas qu'il ne fût le fils. Il imaginait donc que, quel que fût le motif de leur brouillerie, elle cesserait certainement au retour de M. Jones, événement dont il se promettait de grands avantages de la part de ce jeune homme, s'il pouvait par quelque moyen se rendre l'instrument de son retour, ne doutant pas, comme nous l'avons déjà observé, qu'il ne parvint à s'assurer également la faveur de M. Allworthy. Nous avons encore remarqué qu'il avait un excellent naturel, et lui-même avait solennellement déclaré le vif attachement qu'il avait pour la personne et le caractère de Jones. Mais il est possible que le double espoir qui le flattait, et dont je viens de parler, eut aussi quelque petite part au zèle qu'il mit à entreprendre cette expédition, à celui au moins qui le porta à ne pas l'abandonner. Après qu'il eut découvert que son maître et lui, comme il arrive souvent entre des pères et des enfants, quoique voyageant ensemble, dans la plus intime familiarité, avaient embrassé des partis contraires. Je suis conduit à cette conjecture par la remarque que j'ai faite que, quoique l'amour, l'amitié, l'estime et tous les autres sentiments de cette nature opèrent avec beaucoup de force sur l'esprit humain, l'intérêt est un moyen puissant que les gens sages négligent rarement d'employer quand ils veulent amener les autres à leur fin. C'est en effet un remède excellent et sûr qui, comme les pilules de Ward, se jette sur le champ et sans s'égarer sur la partie du corps sur laquelle on veut qu'il opère, et soit sur la langue, soit sur la main, soit sur tout autre membre, ne manque presque jamais de produire l'effet désiré.